dissonance.
Trois fois par mois, histoire de voir les choses autrement, sous un autre angle ou dans une autre perspective, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des parcours de vie. Des parcours vécus par des gens comme vous et nous, des voix dissonantes, des voix d'hommes et de femmes qui portent un éclairage différent sur nos rêves et nos folies.
Dissonance,
Joseph Hula
et Dany Joulier.
Faire une émission pour évoquer le 50e anniversaire du début de la lutte du Larzac, ce pourrait être l'occasion de faire un rappel historique. Pourtant, rien n'est moins actuel que le profond renouveau agricole qui se vit depuis ce combat commencé en 1971 et terminé en 1981 sur ce Cos aveyronnais.
Dissonance reçoit aujourd'hui Joseph Pinault, un habitant du Larzac, ancien animateur des comités Larzac et auteur avec Claude Bayon de l'original ouvrage très complet « Larzac, le combat d'un territoire ». Avec Joseph Pinault, nous évoquerons pendant une heure le passé de cette lutte d'hier, où les paysans, entourés et portés par une foultitude de composantes évoquées ici, ont su inventer, créer et gagner.
Joseph Pinault nous donnera aussi sa vision du présent de ce territoire, où, alors qu'en 1974, des dizaines de milliers de gens sont venus crier « Faites la bourre, pas la guerre », aujourd'hui, 1300 légionnaires sont installés dans le camp militaire de la cavalerie, sans que cela ne soulève un vent de révolte.
En 2021, la lutte du Larzac se limiterait-elle à la sauvegarde de terrains agricoles ?
Ensemble, nous garderons le Larzac. Gardons-nous le Larzac !
Joseph Pinault sur Dissonance.
Joseph Pinault, si j'avais à te présenter, qu'est-ce que je dirais ?
Donc, aujourd'hui, je suis habitant à Saint-Martin-du-Larzac depuis 5 ans et je suis retraité après avoir fait plusieurs carrières à Millau dans le domaine du social.
Et tu es arrivé ici en Aveyron sur le plateau suite ou à cause ou grâce à la lutte du Larzac ?
Ah, je suis arrivé ici par le Larzac, ouais, c'est très clair, quoi. Dans les années 70, moi je travaillais chez Michelin à Clermont-Ferrand, où j'étais délégué du personnel CFDT, ce qui explique quelque chose. Et j'ai participé au comité Larzac de Clermont-Ferrand à partir de 1974. Moi, le mot Larzac, je l'ai vu la première fois dans les couloirs du métro à Paris en 73. Donc je ne suis pas des premiers combattants Larzac. Moi, c'est 73, la découverte du Larzac. Je ne sais pas, parce que ce mot-là, même, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas beaucoup non plus l'Aveyron, parce que moi je suis originaire de Vendée. Et à l'époque, je travaillais donc pour Michelin, mais à Paris. Et j'ai découvert ça. Et en 74, donc un an après, c'est une de mes sœurs qui connaissait des gens ici. On vient à la Dutarn et on est venu au rassemblement de 74. Et à partir de là, j'ai commencé, étant revenu à Clermont-Ferrand, j'ai commencé à participer au comité Larzac de Clermont-Ferrand. Jusqu'en 77. Et en 77, alors, j'avais démissionné de chez Michelin pour faire une formation de 2 ans comme animateur socioculturel. Et j'ai fait mon stage pratique en 77 ici sur le Larzac. Et comme le premier permanent des comités Larzac, Patrick Bourdin, partait, lui, pour Nîmes, après avoir été dans le poste depuis 75, j'ai pris sa suite, en fait, jusqu'en 1981.
Aimerais-tu voir ta maison entourée de barbelés, ne plus savoir si la saison est temps de guerre ou temps de paix, trouver dans ton chemin ces machines qui broient le fruit de ton travail et tes champs et tes bois. Gardons le Larzac, paysans.
peut-être pour les plus jeunes, ça serait bien de rappeler ce que c'est que c'est ce combat de ces 103 paysans, mais pas que des paysans, justement, il y avait aussi des ouvriers, des syndicalistes, etc. Si tu veux nous en parler.
Oui, moi, quand on parle du Larzac, hein, c'est la lutte des habitants du plateau du Larzac. Enfin, et encore, si on était très précis, c'est la lutte des habitants du nord Larzac. Hein, parce que le sud Larzac, celui qui est dans le département de l'Hérault, n'était pas concerné. Et de fait, a très peu participé au combat du Larzac. Donc on est situé dans le nord Larzac, c'est-à-dire à proximité de Millau. Hein. Millau, donc, c'est la commune qui a le plus de terres sur le Larzac. Hein, c'est une très grande commune. Et donc en 70, les paysans apprennent dans une réunion politique à la cavalerie que le camp va être étendu.
La richesse agricole potentielle du Larzac est quand même extrêmement faible.
André Fanton, secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense.
Alors, la contrepartie, c'est le fait qu'il y a quand même quelques paysans, pas beaucoup, qui élevaient vaguement quelques moutons, en vivant plus ou moins moyenâgeusement, et que il est nécessaire d'exproprier.
Donc le camp, il existe depuis 1901. Il couvre, depuis cette époque-là, il couvre 3000 hectares, et l'annonce, c'est de le porter à 17 000, donc on rajoute 14 000 hectares. En gros, on militarise toute la partie nord du Larzac, quoi. Et à partir de début 71, donc il y a d'abord des militants de Millau, hein, qui s'interrogent sur ces extensions et qui commencent à s'y opposer, qui organisent une première manifestation qui part de Millau, qui regroupe quelques centaines de personnes et qui se dirige vers le camp de la cavalerie. Et à cette époque-là, les paysans sont absents de la manifestation. Ce sont vraiment des gens... Alors, ça regroupe à la fois des militants pacifistes, quelques personnes aussi qui ont combattu la guerre en Algérie, et aussi, bien sûr, des militants politiques, dont notamment le PSU, hein, très présent à Millau. Et donc, ce sont ces militants-là qui, dès le départ, trouvent complètement aberrant qu'on puisse faire un camp militaire de 17 000 hectares. Donc, c'est plutôt une démarche antimilitariste au départ, hein. Bon, les paysans vont quand même pas rester inactifs, hein, parce que eux, on leur pique leurs terres.
C'est inadmissible, n'est-ce pas? Tout à fait inadmissible que les militaires s'implantent à l'intérieur de cette forêt.
Donc, les paysans vont embrayer très très rapidement sur la lutte. Mais au départ, c'est quand même important de le dire. Ce sont des militants de Millau, des militants politiques, des militants non violents, des militants contre la guerre d'Algérie. Qui sont les premiers à manifester contre ce projet à l'époque d'extension du camp militaire. PSU, CFDT, à l'époque, il faut peut-être le préciser, c'était la CFDT qui était pour l'autogestion, c'était une CFDT qui prônait donc l'autogestion, qui était en rupture complète avec le système capitaliste. Hein. C'était une CGT très, très militante. C'est plus la CFDT d'aujourd'hui, même si elle est devenue le premier syndicat de France.
Et est-ce que ces gens-là ont fait la jonction avec les premiers agriculteurs qui ont commencé à se poser des questions, ou non? Les agriculteurs, de leur côté, ont commencé aussi à faire le tour pour avoir 103 signatures?
Je pense que ça s'est fait au début, ça s'est fait en parallèle. Et puis, il ne faut pas oublier non plus une autre composante, c'est les Mao qui sont arrivés très tôt, hein, à l'été 71, ils sont là. Alors, les Mao, c'est quoi? C'est la suite logique de mai 68. C'est ce qu'on appelle, alors je ne trouve pas le mot, c'est-à-dire qu'on incite, les Mao incitent leurs militants à aller dans les usines, à aller à la campagne pour, entre guillemets, prêcher la bonne parole. Alors, ça porte un nom, mais j'ai complètement oublié. Donc, il y a... ces composantes-là, cette composante un peu militante extérieure, et parallèlement, les paysans, à travers leur organisation professionnelle, hein, parce que la FDSEA, avec son délégué cantonal qui est M. Masbio à la cavalerie, tout de suite, là encore, c'est par la suite, on verra que ça évoluera, mais au départ, le noyau, c'est quand même les paysans de la cavalerie, qui, eux, sont en contact du camp depuis toujours, qui ont leurs habitudes, parce que les troupeaux peuvent continuer à aller paître sur les terres militaires quand il n'y a pas de manœuvre. Mais c'est ces gens-là, parce que délégué cantonal, de la FDSEA. Donc, tout de suite, il se retourne vers le syndicat agricole. Et le syndicat agricole agit de suite en disant c'est inadmissible que vous puissiez prendre 14 000 hectares alors que l'agriculture sur le Larzac est en plein renouveau. Elle est en plein en renouveau pour deux raisons. De jeunes paysans à la cavalerie, souvent issus de la JAC, la jeunesse agricole catholique, et des mouvements catholiques qui sont très présents dans l'agriculture à l'époque. Donc ce sont des jeunes gens qui viennent de reprendre les fermes de leurs parents, qui commencent à s'organiser en GAEC, en groupement agricole, GAEC, alors là, groupement agricole d'exploitation en commun. Donc c'est déjà une agriculture tournée vers l'avenir, quoi. C'est plus les paysans avec des petits troupeaux de 30, 40, 50 brebis, là. On commence à avoir des troupeaux beaucoup plus nombreux, ils commencent à travailler entre eux. Hein. Alors ça, c'est la composante, j'allais dire, pur port, c'est-à-dire les gens qui sont à la cavalerie. Il y a une autre composante, alors située à l'ouest de la Nationale 9, qui partage le Larzac quand on part de Millau vers la mer, donc à l'ouest de cette nationale. Là aussi, ce sont des paysans venus de l'extérieur. Alors il y a une famille célèbre, bien sûr, c'est la famille Burger, qui occupent la ferme de l'hôpital. Eux, ils sont arrivés à la fin des années 50, donc ça fait déjà un certain temps qu'ils sont là, une vingtaine d'années qu'ils sont là. Il y en a d'autres qui sont installés plus récemment. Il y a la famille Tarlier, qui est là depuis les années 60.
De notre part, nous, paysans du Larzac, nous sommes pleins de bonne volonté. Il suffit simplement que de l'autre côté, on trouve des gens qui aient exactement le même état d'esprit que nous.
Guy Tarlier.
Et qui ne mettent pas de dictates et qui veuillent bien essayer de comprendre des paysans et de comprendre les gens au lieu de vouloir systématiquement leur imposer des décisions.
Et aussi des jeunes qui se sont installés, eux, à Jasneuve, au Baume, etc. Donc il y a un renouveau agricole qui se fait à la fois par des jeunes du pays et des gens venus de l'extérieur, qui modernise complètement l'agriculture. Et donc, on est dans une agriculture qui est en plein rebond. Hein. Et ça, la FDSEA, bien sûr, elle ne peut que défendre ça. Et donc, très rapidement, le syndicalisme agricole va s'opposer au projet d'extension et va organiser la première manif importante qui aura lieu à Millau le 6 novembre 71.
Si cette manifestation a lieu, c'est qu'elle a été provoquée par le manque de concertation préalable.
Henri Ramad, président du comité de sauvegarde du Larzac.
Nous souhaitons, bien entendu, qu'après cette manifestation, nous ayons des contacts avec le ministère de la Guerre, afin qu'on revoie le problème du Larzac.
Et si par hasard vous n'obtenez pas un gain de cause, si la décision d'étendre le camp du Larzac de 3 000 à 17 000 hectares était maintenue, que feriez-vous?
La décision qui pourrait être prise est certainement pour aujourd'hui imprévisible. Et je ne peux pas faire de déclaration sur ce qui éventuellement pourrait se passer après.
Et ensuite, il y aura donc une première marche en tracteur des paysans du Larzac qui vont aller là, à Rodez, là où il y aura une très très grosse manifestation, mais vraiment organisée par la FDSEA. Et sur le plateau à ce moment-là, grâce à des gens comme Guy Tarlier qui lui commence à aller parler aux paysans, etc., qui fait du porte-à-porte. Il y a aussi le rôle très important des conseillers agricoles donc, hein, qui sont basés à la coopérative agricole rue de Glossop à Millau, mais qui sont au contact avec tous les paysans. Et donc c'est à l'époque Pierre Molena. Et l'idée de signer un serment pour dire qu'on ne cédera jamais aucun pouce de terrain, elle prend forme. Et donc c'est pour ça qu'on réunit 103 signatures sur les 107 paysans concernés. Alors là encore, il ne faut pas non plus tomber dans un récit merveilleux, parce que sur les 103, Il y en a une soixantaine qui sont vraiment concernés et pour qui les terres enlevées sont vitales. Les autres, ils sont plutôt en bordure du camp, ils sont concernés d'un peu plus loin, des fois c'est quelques hectares, etc. Donc voilà. Et parallèlement à ça, il y a quand même au niveau départemental, il y a le comité de sauvegarde qui se met en place avec des personnalités importantes de l'Aveyron de l'époque. Il y avait des personnalités comme les frères Laure. Hein. Dans les autres personnalités, on pourrait citer l'évêque de Rodez, parce que là, peut-être on pourra en reparler, mais l'aspect religieux des paysans et de l'Aveyron en général à cette époque-là est très important.
Localement, nous avons aussi bien le soutien de tout l'ensemble des maires de l'Aveyron.
Guy Tarlier.
De tout l'ensemble du conseil général, de tout aussi bien les partis de gauche que de l'évêque. Tout le monde se trouve rassemblé autour de nous pour nous soutenir.
Et puis, il y a aussi des gens qui vont donc créer l'association de sauvegarde du Larzac, comme Henri Ramad, qui est un ancien maire de Saint-Jean-de-Bruel. Saint-Jean-de-Bruel, c'est une commune au pied du Larzac, en direction des Cévennes. Voilà, donc il y a tous ces... Disons qu'il y a plusieurs foyers de contestation qui se mettent en place et qui, petit à petit, se retrouvent quoi, autour des paysans. Donc voilà, la mayonnaise commence à prendre, quoi.
Ensemble, nous garderons le Larzac. Gardons le Larzac.
Joseph Pinault sur Dissonance.
Au même moment, donc, il y a Debré qui justifie son projet d'extension à grand renfort d'interviews télévisées et qui parle du désert du Larzac, qui parle de quelques paysans miséreux dans des bâtisses. Voilà.
Finalement, à quoi rime cette agitation ?
Michel Debré, ministre de la Défense.
Nos pères ont entendu pas un homme, pas un sou. Cette phrase est un peu éculée. On la remplace, laïquement ou ecclésiastiquement, par les mots « pas une herbe, pas un caillou ».
Donc ça choque beaucoup, c'est l'orgueil des Sud-Aveyronnais, des Aveyronnais, des paysans, blessés, quoi. Donc eux, je pense qu'au départ, ils se disent mais c'est complètement fou ce truc-là, et donc ça va s'arrêter de... Ce qu'ils oublient un peu, c'est que s'il y a ce projet d'extension en place, c'est que depuis des dizaines d'années, les élus du Sud-Aveyron demandent à ce que l'activité... Alors au début, on parle d'activité plus importante sur le camp, puis petit à petit, on arrive, si le camp devenait plus important, il y aurait plus d'activité, ça pourrait aider... Il faut rappeler le contexte aussi économique. On est en pleine crise de la peau et de la ganterie sur Millau. Hein. Donc là, il y a du chômage en masse. Et donc, pour les partisans de l'extension du camp, c'est une bouffée d'oxygène qui arrive. On retrouvera ça un peu plus tard, en 2015.
Nous sommes 103 paysans invités à foutre le camp. Debré a dit, j'ai décidé, je veux la terre pour mon armée, mais nous avons tous refusé, pas question de se faire acheter, pour nous la terre n'a pas de prix, pour nous la terre est notre vie.
Et alors au départ, tu as évoqué un groupe à Millau qui a commencé à faire une première manif. Et c'était plutôt le volet antimilitariste qui prédominait. Voilà. Est-ce que là, maintenant, vu que les paysans s'organisent avec ce serment des 103, on pense toujours à ce côté antimilitariste ou non ? C'est plutôt l'expropriation agricole qui prédomine.
Je pense qu'il faut être honnête. Hein, chez les paysans, c'est le côté agricole. Dans le mouvement de soutien, parce qu'il ne faut pas oublier que dès cette époque-là, il y a les premiers comités Larzac qui commencent à apparaître. Hein, donc, le premier, on ne va pas jouer sur les dates, mais... En gros, c'est la proximité de Larzac. Le premier, c'est forcément Millau. Il y en a un qui s'ouvre à Saint-Afrique. Il y en a d'autres à Rodez. Ça s'étend ensuite à Montpellier, Toulouse, parce que le mouvement occitan est très présent. Hein, on est dans les années 70. La langue occitane, enfin, il y a beaucoup de militants pour essayer de faire en sorte que la langue occitane reste vivante.
Mon fil, des mauvaises pas acquis. Mon fil, l'homme qui vient est l'ennemi. mon fil. Sur son espalo y a un fusil. Mon fil, des morts est pas acquis.
Donc ce mouvement de soutien extérieur, lui, il y a les deux composantes, c'est-à-dire, oui, il ne faut pas qu'on enlève la terre aux paysans, ça c'est clair, mais il y a aussi non à l'armée. Et à l'époque, on voyait, en fait, dans une espèce de stratégie de défense de l'Europe, le péril, c'était la montée des pays. Donc on est 10 ans après la fin de la colonisation, et le péril, on le voit déjà en Afrique du Nord, etc. Donc... en gros, c'est de dire non, on veut pas, nous, c'est pas ça, quoi. Donc là, l'antimilitarisme est assez important. En 72, 14 juillet, c'est la première manif tracteur qui va sur Rhodes. Là, on est en plein été, 14. Après, il y a un premier, oui, la première manifestation à Paris, c'est quand on amène des moutons sur le Champ de Mars. Hein. Donc là, c'est un camion qui part de la ferme de l'hôpital avec une trentaine ou une cinquantaine de brebis qu'on lâche sur le Champ de Mars à Paris. Et c'est la première manifestation un peu d'importance et qui permet à la presse nationale de s'emparer de découvrir le Larzac. Parce que je pense qu'avant, on connaît pas. On connaît le Roquefort, mais on connaît pas le Larzac.
Alors, une question, Joseph. Pour ces agriculteurs, qu'est-ce qui leur a donné l'idée de médiatiser leur action comme ça ?
Et ben là, ils pensent que l'idée, alors ça tient aussi à la composition sociologique du Larzac, c'est-à-dire que on parle beaucoup des paysans, il faut aussi parler des habitants. Et à cette époque-là, il y a aussi, donc tout à l'heure, je parlais de jeunes paysans qui s'installent, mais il y a aussi de jeunes habitants qui s'installent. Et ce sont des artistes. Donc, et l'idée, par exemple, des brebis sous la tour Eiffel, ben c'est Claude Bayon, qui est un artiste verrier, qui s'est installé à la ferme qui rénove la ferme de Brouze. Le couple Bayon a acheté cette ferme à la fin des années 70. Et en 71, on leur annonce que ça va être un camp. Alors, ils sont pas dedans, hein. Ils sont à la limite du camp militaire, mais la perspective d'avoir les militaires sous le... Non, voilà. Donc, ça commence à se phosphorer. En lien avec des militants sur Millau, comme le photographe Raymond Martin, et l'idée des brebis sous la tour Eiffel, ça germe dans ces têtes-là. Ils le soumettent aux paysans, les paysans vont tout de suite embrayer, et voilà. Et beaucoup d'affiches qui seront faites ensuite sont faites par les mêmes gens. Hein. C'est-à-dire que ce milieu culturel qu'il y a sur le Larzac, elle est très importante pour la popularisation graphique aussi du Larzac.
Et donc après, il y a cette montée à Paris en tracteur, c'était une première.
Voilà, il y a la montée en tracteur sur Paris. Donc en janvier 73, c'est en réponse à l'arrêté de déclaration d'utilité publique.
Guy Tarlier.
Le but de cette opération, c'est d'essayer de sensibiliser le maximum de gens au problème du Larzac, parce qu'on estime que c'est un problème qui concerne non seulement les agriculteurs du Larzac, non seulement les gens de l'Aveyron, mais aussi absolument tous les Français. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons entrepris de faire une marche à travers toute la France. C'est un problème qui est extrêmement important.
Donc, une trentaine de tracteurs partent de Millau avec l'objectif de rejoindre Paris. Alors, sachant que ça avait été annoncé par Robert Gastal à la manif de Rodez en disant « On est venu du Larzac à Rodez en tracteur. S'il le faut, nous irons à Paris ». Ça se concrétise donc en 1973, janvier, en plein hiver. Hein. Et souvent, d'ailleurs, les actions spectaculaires ont lieu l'hiver, parce que c'est la période où les brebis laissent le plus de temps à leurs éleveurs pour faire des manifs. Donc, ils arrivent à Orléans, où ils sont bloqués par les CRS. À Orléans, alors que cette marche est soutenue dès le départ par la FDSEA et la FNSEA, les syndicats classiques, on va dire, disent « Bon, ben nous, c'est bon, on arrête, on fait un meeting là, puis on s'arrête. » Sauf que les paysans sont un peu frustrés, ils veulent continuer. Et là, il y a un certain Bernard Lambert, donc paysan travailleur originaire de la Loire-Atlantique, mais il y a aussi une petite cellule de paysans travailleurs dans le département du Loiret. Et eux, ils décident de continuer avec les paysans. Donc on laisse les tracteurs à Orléans, mais on monte en bus à Paris. Et il y aura quand même une manif à Paris. Et c'est à cette occasion-là que Bernard Lambert lance l'idée. Donc on est en janvier 73. Bernard Lambert lance l'idée alors de dire ben, on fera des marches convergentes sur le Larzac pendant l'été.
En y associant les ouvriers, LIP notamment.
En y associant les ouvriers, parce que, oui, là, c'est important de le souligner, parce qu'on est à la même période, la grande grève des LIP à Besançon, où la liaison se fait, c'est-à-dire que les quelques paysans participent aux grandes marches des LIP à Besançon, et des LIP viendront ensuite sur le Lanzac.
La synthèse de la marche.
Bernard Lambert.
La synthèse de la marche, c'est une paysanne qui la disait sur le bord de la route. En venant avec la marche de l'Ouest, elle disait « Nous allons à un mariage, le mariage des ouvriers et des paysans, le mariage de l'IP et du Larzac. Jamais plus les paysans ne seront des Versaillais. Il vient de naître par contre, c'est que des paysans sont capables de s'organiser pour rejoindre le combat des ouvriers, des étudiants, contre le capitalisme, le patronat, contre la bourgeoisie. C'est le sens de toute cette marche et c'est le sens de ce que nous ferons.
Donc voilà, les paysans travailleurs et la liaison paysans travailleurs qui deviendront confédération paysanne plus tard naît là. Hein. Mais pour l'instant, les paysans sont toujours attachés à la EDSA, ils ne sont pas encore paysans travailleurs. Ceux qui viendront tout de suite paysans travailleurs, c'est ceux qui vont venir de l'extérieur et qui vont occuper les fermes. Donc là, on peut citer Christian Rouquayrol, on peut citer José Beauvais, François Maté, j'en oublie, mais enfin, les jeunes qui vont venir occuper des fermes de façon illégale, hein, aujourd'hui on parlerait de ZAD, hein, mais donc c'est eux qui vont tout de suite créer le mouvement paysans-travailleurs sur le Larzac.
Et ces jeunes-là arrivent à quelle époque? On est en 73, donc il y aura encore un second rassemblement en 74.
Donc il y a le rassemblement en 74, donc ils commencent à arriver, les premiers arrivent en 74, hein, 73, fin 73. Et dès 73, là par contre, il y a Lanza del Vasto, donc, qui vient de la communauté de l'Arche. La communauté de l'Arche, c'est une communauté non violente, avec Lanza del Vasto à sa tête, qui est un disciple de Gandhi, qui est installé au pied du Larzac dans l'Hérault, hein, et qui vient donc mobilisé par les gens qui ont organisé la première manifestation dont on parlait tout à l'heure, et qui vient sur Larzac à la cavalerie et qui entame une grève de la faim. Alors pour les paysans, au départ, grève de la faim, c'est pas trop leur truc. Hein. Ils y participent quand même à tour de rôle. Il y en a quelques-uns qui y participent. Et l'événement le plus important, c'est bien sûr que l'évêque de Rodez va aussi venir. Donc là, il y a un premier... Bon, d'une part, un retentissement régional, mais aussi national. Il y a le premier contact des paysans avec le monde non-violent. Et donc là, ils vont commencer à voir un peu, hein. Au départ ils regardent ça avec circonspection, hein, parce qu'ils sont mais petit à petit quand même ça va se faire, et une communauté de la communauté de l'Arche, certains vont venir occuper la première ferme sur le Larzac, la ferme des Truelles, et c'est la première fois où donc des militaires vont être chassés d'une ferme qu'ils occupent. Et ça, de façon complètement non violente, effectivement. Il a suffi d'attendre. Hein. On était là tout autour, tous. Enfin, moi, j'y étais pas. Hein. Les militants Larzac étaient là. Et au bout de quelques temps, ben, les militaires ont abandonné le terrain. Quoi. C'est une erreur qu'ils n'ont pas reproduite après. Hein, parce qu'ils ont créé ensuite un certain nombre de fortins militaires. À chaque fois qu'ils prenaient possession d'une ferme, là, hop, ils l'occupaient avec quelques bidasses qui étaient ravitaillées par camion depuis le camp. Et là, ils maintenaient leur fortin, quoi.
On ne décidait plus que jamais à rester là où nous sommes.
Léon Burguière.
Et on peut faire ce qu'on voudra, tant que nous sentirons un appui, nous vous êtes tranquille et nous ne nous sortirons pas.
En fait, vous répétez, nous garderons le Larzac.
Absolument, nous garderons le Larzac à tout prix.
Pour comprendre un peu ce qui se passe sur Larzac, c'est qu'il n'y avait pas vraiment nécessité de violence au départ, parce que l'extension, elle était restée virtuelle, hein. Tous les paysans étaient sur leur ferme, les militaires vivaient comme ils avaient toujours fait, hein, c'est-à-dire qu'ils sortaient régulièrement du camp, etc. Donc, la force des paysans, c'est toujours été d'accepter les soutiens. Donc, les non-violents, les groupes non-violents, parce qu'on parle de l'Arche et de la communauté des Truelles, mais on pourrait parler du mouvement d'action non-violente, hein, le MAN, donc, qui était présent dans un grand nombre de comités Larzac. Donc les paysans, ils ont toujours dit, il y a une composante non violente, il y a une composante dans les comités Larzac, c'était une composante plus militante, hein, PSU, Mao, antimilitariste, Occitane, je l'ai dit tout à l'heure, et ils ont toujours accepté, ils n'ont pas, sans faire le choix qu'ils ont fait, c'est effectivement de refuser les actions non violentes, mais de mon point de vue. Au moins jusqu'en 1975, donc l'attentat de la Blaquière, les actions violentes n'auraient pas servi à grand-chose. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a eu, et ce n'est pas le fait des paysans, mais de leur soutien, il y a eu quand même 2 viaducs SNCF plastiqués, il y a eu quelques grenades lancées sur des convois militaires, il y a eu à Montpellier la façade de je ne sais plus quelle caserne qui a été barbouillée. Enfin, il y a quand même eu des actions... Mais jamais le fait des paysans, ça c'est très clair.
Les paysans du Larzac publient un communiqué très violent ce soir pour protester contre l'attentat qui a endommagé la nuit dernière la ferme d'un de leurs collègues. C'était le hameau de La Blaquière qui était visé, ce hameau qui est le centre de la contestation sur le plateau. À 3h du matin, toute l'aile d'une maison a volé en éclats, certainement une charge de plastique.
75, il y a cet attentat terrible, hein, parce que il aurait pu y avoir des morts, hein, c'est... un attentat à l'explosif dans la maison d'habitation où dorme la famille Guiraud.
Oui, il y avait 7 enfants, plus Auguste et sa compagne, voilà. Et un berger. Ouais.
Donc il y avait beaucoup de monde là, et la maison est dévastée. Hein. Donc là, c'est un très gros traumatisme, avec une réaction là, qui se fait virulente, hein, parce que donc, ça se passe début mars. Le 15 mars, il y a une journée d'action nationale Larzac, avec une très grosse manifestation à Paris, et où là, on défonce la grille de la sous-préfecture, hein. C'est un tracteur...
Une manif à Millau, tu veux dire?
Oui, à Millau, oui. Donc là, la grille de la sous-préfecture vole en éclats, sauf que ce qu'avaient pas vu les manifestants, c'est que derrière, il y avait quelques centaines de gardes mobiles qui chargent d'une façon violente comme on ne l'a jamais connue après sur le Larzac. C'est-à-dire qu'ils poursuivent les manifestants jusque sur la place du Mont-Darou. Il y a un militant Larzac qui perd un œil dans cette affaire-là. Et là, ça met un peu les nerfs à vif de tout le monde. Et cette manifestation, elle a un impact important. Il y a une grosse manifestation à Paris. Moi, j'étais à Clermont-Ferrand à l'époque et on fait une grosse manifestation. Et comme c'est Giscard d'Estaing qui est président de la République et qu'il était l'ancien maire de Chamalières, on va occuper la mairie de Chamalières. Donc on rentre dans son... On fait pas de dégâts, on rentre dans son bureau, voilà. Mais on occupe la mairie de Chamalières. Et bon, je cite Marseille, Montpellier. Il y a des manifs un peu partout en France. Et là, Le Monde en fait ses gros titres, par exemple. Donc, et je vais dire, c'est presque la fin du Larzac heureux. C'est-à-dire que entre 71 et donc 75, l'attentat de la Blaquière, toutes les actions ont un côté festif. Hein. Elle se termine en général toujours par un grand pique-nique sur le Larzac. C'est toujours festif, les grands rassemblements. En 73, 74, il y a autant de groupes de musique que de groupes politiques. Hein. Les interventions, bon, Graham Allwright va chanter toute la nuit en 74. Hein, ça va se terminer très tôt le matin.
Oh, Valérie. Alors comme ça, tu as choisi, tu as choisi les fusils et pas le brebis. Tu as choisi la mort. Je suis vraiment très déçu, je te croyais plus fort. Et tu sais, mon vieux, moi aussi, j'aime le rock fort.
Mais à partir de 1975, dans la mesure aussi où la procédure juridique avance, et elle avance vite, hein, c'est-à-dire que l'armée continue à acheter des terres, l'enquête d'utilité publique, enfin, toute la procédure juridique avance.
Ensemble, nous garderons le Larzac. Gardons le Larzac.
Joseph Pinault, sur Dissonance.
Et là, la lutte change un peu de nature. Hein. D'une part, parce qu'il commence à y avoir des défections dans le groupe des 103 de départ. On peut dire qu'à partir de 75, allez, on va être généreux, il y en a une cinquantaine qui sont encore pleinement impliqués dans la lutte. Les gens de la cavalerie, ceux qui sont à l'initiative, vivent dans un climat tellement difficile, notamment avec les enfants à l'école, où c'est la bagarre entre les fils de commerçants, les fils de paysans. S'opposer à l'extension du camp, c'est très très difficile. Donc, ils abandonnent pas la lutte, mais ils se mettent très nettement en retrait. Et là, donc, on rentre dans une deuxième phase où c'est vraiment une bataille pied à pied contre chaque avancée juridique. Et il y a une avancée de paysans. Donc, on continue à faire un rassemblement. En 77, on refera une marche sur Paris à pied. En 78. Après, il y aura l'intrusion dans le camp pour aller vérifier que l'armée continue effectivement à acheter les terres, ce qui était vrai. Et avec donc là, 22 personnes qui sont dans l'antenne génie domaine, c'est-à-dire la structure chargée de l'achat des terres, qui donc ils rentrent dans le bureau et ils commencent à regarder les papiers et tout ça, et ils se rendent compte que les achats sont très avancés. Alors que parallèlement, notamment au travers de la FDSEA, on parle de négociations, etc. Et les paysans, ils disent à quoi ça sert de négocier si vous continuez à acheter ? Les 22, donc, bien sûr, là, hop, les gardes mobiles interviennent, ils sont mis en garde à vue. Il y a un procès qui se fait à Millau, où la foule envahit le Mandarou et tout ça. Ils sont quand même condamnés. 7 d'entre eux sont condamnés à des peines de prison ferme. Et retraite, droit civique, etc. Enfin bon, c'est... Voilà, donc tout ça, on voit bien que ça se durcit. Et concrètement, en fait, on arrive à la fin de l'année 80, où la procédure juridique est quasiment terminée. L'État, enfin l'armée à travers, enfin l'État, les domaines ont acheté plus de 10 000 hectares sur les 14 000. Hein. Et là va s'enclencher donc la dernière phase de négociation vers une mini-extension.
Et les syndicats agricoles au niveau national et départemental incitent les paysans à la négociation.
Oui, oui, bien sûr, mais ça depuis... La FDSEA a toujours été dans cet esprit-là, hein, en disant mais... En gros, on va négocier, il y a moyen. Alors, dans leur idée, on va essayer de grignoter le maximum, de façon à ce qu'il y ait un maximum de paysans qui ne soient pas concernés ou dont on peut sauvegarder l'activité en allant chercher des terres un peu à l'extérieur, quoi. Donc ça existe depuis le début, les tentatives de négociation. Ce qu'il faut reconnaître aussi, c'est que la FDSEA sur l'Aveyron, enfin, FDSEA, Chambre d'agriculture, etc., ont soutenu plus ou moins le Larzac jusque à la fin des années 70. Le national a décroché très très vite. Hein, ça, faut pas. C'est Michel de Baptiste à l'époque qui est président de la FNSEA et lui, il a décroché très tôt. Mais puisqu'on parle des achats de terres, il faut quand même préciser aussi que les paysans ne sont jamais restés inactifs. Alors, on parlait de non-violence tout à l'heure, il y a eu plusieurs actions importantes. Hein. Donc initié par la partie non violente du mouvement de soutien, c'est le refus de l'impôt. C'est-à-dire que, puisque le budget de l'armée à l'époque de 3%, chaque contribuable est incité à enlever 3% de son impôt, à le mettre sur un compte bloqué et d'écrire au ministère des Finances en disant qu'il ne souhaite pas participer au financement de l'armée, donc il retire 3%. Ces sommes-là importantes, hein, plus de 3000 personnes ont fait ça, vont permettre deux choses. Une chose, c'est la construction de la bergerie de la Blaquière. Et ensuite, de financer le mouvement de soutien, c'est-à-dire les affiches, etc. etc. Donc ça, c'est un des aspects de la lutte. Le deuxième important, c'est les achats de terres. C'est-à-dire que face à l'armée, qui achète des terres, les paysans mettent en place les GFA, les groupements fonciers agricoles, en tout, il y en aura 4, et qui achètent les... Quand il y a des propriétaires, souvent, parce que sur le Larzac, la propriété est souvent extérieure au plateau, c'est pas les paysans qui sont propriétaires eux-mêmes, Donc, quand il y a des propriétaires non paysans qui cherchent à vendre, eh bien les GFA achètent. Et à la fin de la décennie 70, il y aura 1200 hectares qui ont de cette manière-là été achetés par plus de 3600 apporteurs de parts. Et donc, ça c'est un des moyens mis en place pour contrer sur le terrain. Et la stratégie, bien sûr, c'est d'essayer de faire en sorte que les achats entourent le périmètre du camp actuel, de façon à compliquer considérablement la procédure d'expropriation, parce que chaque propriétaire devra être informé. Voilà, donc ça, il y a à la fois cette procédure administrative juridique qui mène son chemin là, comme un rouleau compresseur, et de l'autre côté, il y a quand même toute une bataille. Donc on a parlé du 3% de l'impôt, on a parlé des GFA, il faut parler aussi des occupations, c'est-à-dire que beaucoup de fermes, parce que le Larzac, il y avait quand même à l'époque pas mal de villages abandonnés, de fermes abandonnées. Donc dès que c'était possible, de jeunes agriculteurs, ou pas d'ailleurs des gens qui venaient de la ville, hein, qui se sont convertis à l'agriculture, occupent ces fermes-là. Et elles occupent dans tout le périmètre nord-ouest, nord-est du plateau. Et donc ce sont autant de points d'ancrage qu'il sera quand même très difficile de déloger si un jour les expropriations ont lieu.
Eh bien, nous sommes donc dimanche 10 mai 1981, le deuxième tour de l'élection présidentielle. Nous vivons ensemble un moment décisif. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République.
Après, Mitterrand va arriver. C'est un candidat de gauche qui avait fait une promesse. Il la tient. Le Larzac ne sera pas cédé aux militaires.
Vous vous êtes réunis le soir où vous avez appris qu'il n'y aurait pas d'extension ?
Mais là, oui.
Qu'est-ce que vous avez fait, une fête ?
Auguste Guiraud.
Mais puis ça a duré 3 ou 4 jours, la fête, une fois d'un côté. Mais le premier jour, alors je vous dirais que tous les voisins, puis on s'est rassemblés vers la ferme de l'Ensemble à Millau, et on est allé à la salle de fête de Crécel jusqu'à 2h du matin, ou 3h, oui. On a arrosé ça.
Pendant 3 jours, ça a duré ?
Non, 2 jours, oui, on a bien arrosé. Ça méritait ça, quand même.
Ça méritait. Depuis
10 ans, quand même. Oui. Mais c'est ceux qui avaient le téléphone, les coups de téléphone qui arrivaient, le téléphone en venait rouge, oui, tout le monde téléphonait de partout, quoi.
Ah, oui, de toute la France.
Ah, oui. Ah oui, là, ça a été.
Pour dire quoi ? Qu'est-ce qu'ils disaient, les gens ?
Qu'ils étaient avec nous, quoi, qu'ils étaient heureux, qu'ils savaient que le Larzac était gagné, quoi.
Auguste, vous voyez aujourd'hui, bon, est-ce que vous vous rencontrez maintenant aussi souvent qu'auparavant ? Vous et puis les autres du...
Mais si je vous disais que depuis la lutte, au début on se rencontrait peut-être un peu moins, puis toutes les semaines, et ça continue toujours, quoi. Et on se rencontre peut-être de plus en plus.
Mais maintenant, vous ne parlez plus de la lutte, plus de la même façon.
Et on parle de l'avenir du Larzac maintenant. Quoi.
Par quel talent un groupe de paysans ont pu réussir à toujours être maître directeur de cette lutte où il y avait des non-violents, des pacifistes, des Mao, des libertaires, des gauchistes.
Ouais, par quelle alchimie là s'est mis en place ? Je pense qu'il y a deux aspects. C'est-à-dire que le groupe de paysans, les paysans et les habitants du Larzac ont été très, très ouverts et très accueillants. Hein, c'est-à-dire que même les Mao ont été accueillis dans les fermes, etc. Donc ils étaient très ouverts. Et le mouvement de soutien a toujours respecté la collégialité des paysans. Et c'est quand même, ce qui est assez remarquable, enfin moi, pour moi, essentiel, c'est que, par exemple, nous, en tant que coordinateurs des comités Larzac, on était invités à toutes les réunions de paysans. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des réunions plus ou moins privées, etc. Mais les réunions officielles des paysans, on y a toujours été. Et de même que d'autres habitants du Larzac, de même que les militants mis à voix. Donc il y avait une très très grande tolérance. Donc de fait, ils ont conservé la maîtrise de... Aucune action pouvait se faire sur le terrain, parce que les actions qu'on menait, nous, dans les villes en France, c'est vrai que là, on était autonome. Hein. Mais toujours en respectant l'esprit Larzac.
On dit un mot sur les comités Larzac, donc tu étais le coordinateur, parce que j'ai vu que même à New York, il y avait un comité Larzac.
Oui, donc les comités Larzac, donc j'ai dit tout à l'heure, hein, ils naissent d'abord à périphérie du Larzac, hein, c'est-à-dire Millau, Rodez, après Montpellier, Toulouse. Très rapidement, il y a celui de Paris qui se met en place, parce qu'à Paris, il y a une communauté aveyronnaise importante. Et ensuite, dans de nombreuses villes, on parle de 150 comités Larzac, mais Disons que ça, c'était le cas en 75, au moment le plus fort, quoi. Après, bon, il y en a qui se sont plus ou moins éteints, plus ou moins qui se sont réveillés, qui se réveillaient au moment le plus important. Et alors, ce que je voudrais dire, c'est que les comités Larzac les plus vivants, les plus forts, c'est ceux qui étaient localement ancrés sur des luttes du territoire. C'est-à-dire que nous, à Clermont-Ferrand, par exemple, on se battait déjà à l'époque contre le futur barrage de Naussac. Et donc, le Larzac, c'était un complément à ça. Donc, et dans d'autres lieux, c'était ça aussi, hein, le comité Larzac de Lyon, le comité Larzac de Marseille qui se battait contre la prison d'Arinque à l'époque où on enfermait les migrants. Donc, chaque comité très différent, dont je l'ai dit, partagé entre les non-violents, les militants politiques de l'extrême gauche, syndicalistes, la CFDT a joué un grand rôle. Mmh. Le Parti socialiste à l'époque, parce que Mitterrand, la décision de Mitterrand, elle n'est pas née de nulle part. Hein. Le Parti socialiste était très impliqué aussi, PSU, bien sûr. Donc voilà, les comités Larzac, c'était un mélange de tout ça. Des anarchistes, il y avait des comités Larzac complètement anarches. Voilà, un mélange, mais un mélange réussi. Et parce que aussi, les comités Larzac, les militants des comités Larzac faisaient l'effort de venir très souvent sur le plateau. Moi, quand j'habitais Clermont-Ferrand, de Clermont-Ferrand, on descendait tous les 15 jours sur le Larzac. Et il faut se rappeler qu'à l'époque, la 75 n'existait pas, que les réseaux sociaux n'existaient pas, et que pour venir de Clermont-Ferrand à Millau, il fallait 5 heures en voiture, et qu'on roulait plutôt en deux chevaux et en quatre ailes qu'autre chose.
Ici, nous sommes au centre de ce qu'aurait dû être le camp militaire du Larzac. Derrière nous, le hameau de Saint-Martin, qui aurait dû servir de cible à l'artillerie.
Tout comme les fermes expropriées d'Étruel ou de Montredon. Autant de noms qui sonnent aujourd'hui comme le symbole d'une lutte. Pour occuper le terrain, des jeunes venus soutenir le combat des paysans.
Concrètement, ça va être, enfin, la vie va être plus facile.
Alice Monnier.
Enfin, dans la mesure où on pense qu'on va nous goudronner les routes, on va avoir le téléphone, bon, l'électricité, l'eau, etc. Et nous, on compte rester ici en ayant bon, un statut légal, en étant fermier.
Agriculteurs à part entière, ils se battent avec les anciens pour le renouveau du Larzac. Un tiers de la population a aujourd'hui moins de 20 ans. Une école s'est ouverte. Le cheptel a augmenté de 60%. La production de lait et la superficie des terres labourables ont doublé. De ce travail est née une nouvelle conception de l'agriculture.
Et le Larzac aujourd'hui, il y a deux aspects. Il y a cette société civile et des terres du Larzac, dont j'aimerais que tu parles. Et puis la Légion, 1300 légionnaires sur le Larzac, alors qu'on a commencé l'entretien avec le mot antimilitariste.
Pour moi, le Larzac, il y a deux victoires hein, sur le Larzac. Il y a une victoire de la durée, parce que sans le fait de durer 10 ans, il n'y aurait pas eu le dénouement heureux avec l'élection de Mitterrand à laquelle personne croyait. Hein. Donc ça, c'est une première victoire, cette durée, être capable de durer 10 ans. Et la deuxième victoire, c'est à partir donc de 81, la mise en place de la Société civile des terres du Larzac, c'est-à-dire à l'opposé de ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes. Là, il faut dire les mots, hein, le gouvernement socialiste de l'époque, grâce à un certain monsieur qui s'appelait Pisani, pourtant venant de la droite, lui, hein, auparavant, gaulliste en tout cas, avait promis pendant la campagne de 81 de créer des offices fonciers agricoles. L'idée étant de... Si on veut que l'agriculture continue à être une agriculture, entre guillemets, familiale, il ne faut pas que le poids du foncier pèse à chaque héritage sur les futurs paysans qui s'installent. Donc l'idée, c'était de, entre guillemets, nationaliser les terres agricoles pour qu'on puisse y installer des paysans qui n'auraient pas la charge du foncier. Et cette idée-là sur le Larzac, eh bien, on s'est dit, mais puisque l'armée possède 6300 hectares, enfin... Une fois que l'armée, que les décrets d'utilité publique et tout ça ont été abandonnés, les propriétaires avaient le choix entre récupérer leur bien ou le laisser. Il en est resté donc 6300 hectares que l'État possédait, les domaines en l'occurrence. Et là, l'idée était de dire eh bien, à l'État, eh bien, vous gardez ça, vous faites un bail emphytéotique, c'est-à-dire de longue durée, aux exploitants qui exploitent ces terres, et qui se réunissent dans une société et qui vont gérer eux-mêmes ce foncier. Et donc c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est ce qui a permis qu'en 71, sans cette exploitation en 81-123. C'est un phénomène qui est absolument unique, unique en France, et phénomène qui est toujours aussi extraordinaire, c'est qu'en 2021, c'est-à-dire 50 ans plus tard, ou 40 ans plus tard après 81, eh bien, il y a toujours autant de fermes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en est sur certains lieux à une deuxième transition, et il y a toujours autant d'exploitations. Et là où en 71, on ne voyait sur le Larzac que des moutons, ben aujourd'hui, on voit des chèvres, des cochons, des vaches, des chevaux, des ânes, et aussi beaucoup des volailles. Donc la production s'est beaucoup diversifiée. J'oublie les plantes aromatiques, enfin, j'en oublie certainement d'autres. Hein. D'un élevage au vin laitier, on a aujourd'hui à la fois du lait et de la viande. D'une dépendance totale à Roquefort, aujourd'hui, il y a beaucoup de transformations sur place. Il y a aussi une grosse coopérative, les bergers du Larzac, qui aujourd'hui fonctionne. Plus de 30 salariés, plus d'une 35, je crois, producteurs. Et on peut dire que dans ces années-là, dans les années 80, et ça, c'est quand même assez extraordinaire, c'est-à-dire tout ce dont on parle aujourd'hui, les circuits courts, la vente directe, etc., se met en place, déjà. Hein. Il y a un groupement pour vendre la viande bovine. Beaucoup de gens transforment sur place, font du fromage, font du pain aux truelles. Aujourd'hui, je crois que sur le territoire, il y a trois paysans boulangers. Donc, tout ce qui était à la mode, enfin aujourd'hui, c'est pas la mode d'ailleurs, c'est tout ce qui est une nécessité, s'est mis en place dès la fin des années 80 sur le Larzac. Et ça, c'est quand même une victoire extraordinaire.
Donc le Larzac est inventif de 71 à 81, mais il continue toujours à l'être.
Complètement inventif. Ah oui, bien sûr. Hein. C'est extraordinaire de voir les nouveaux installés là, perpétuer cette idée, mais avec leur méthode à eux, leurs idées à eux. Quoi.
Il y a juste cette arrivée de 2300 légionnaires qui fait petit peu tâche. Là.
Donc deux grandes victoires et pour moi une défaite.
Le 7-9 sur France Inter.
Charline Vananacker, des soldats de la Légion étrangère viennent s'installer dans le Larzac.
Des légionnaires dans le Larzac, Patrick.
Ça vous plaît.
Ça le temps pour les chèvres. Alors, pourquoi cette information a-t-elle attiré mon attention? Eh bien, des soldats de la Légion étrangères, bientôt installées dans le Larzac, on vit clairement un changement d'époque, Patrick. Historiquement, les militants écolos de la région n'ont jamais voulu entendre parler de l'armée française. Du coup, on leur envoie la Légion étrangère. Bien essayé. Là aussi, changement d'époque, cette installation ne fait pratiquement pas de remous dans une région qui fut pourtant le foyer de la contestation antimilitariste dans les années 70.
Donc on est en juillet 2015. Et là, on apprend, sournoise, que le camp du Larzac va retrouver une activité pleine et entière, avec beaucoup de monde, etc. On ne sait pas encore que c'est la Légion, mais on va l'apprendre. Alors que depuis 2 ans, on parle plutôt de fermeture du camp du Larzac. Or, il se trouve que c'est un gouvernement socialiste, en 2015, je le rappellerai. Enfin, il a cette étiquette-là, au moins. Et que les gens qui sont au ministère de la Défense, M. Le Drian, ou dans l'Aveyron, le maire de Saint-Affrique, Alain Fauconnier, sénateur PS, et c'est eux qui nous ressortent le même refrain qu'en 71, c'est-à-dire que pour sauver le Sud-Aveyron, pour sauver l'hôpital de Sud-Aveyron, pour sauver la ligne de chemin de fer, etc., etc., eh ben, il faut que le camp du Larzac reprenne beaucoup d'activités. Donc là, il y a un grand plan qui se situe, il faut quand même le dire, à l'époque des attentats, de la nécessité, enfin, du tout sécuritaire en France, hein, c'est-à-dire qu'il faut renforcer toutes les forces de sécurité et tout ça. Et donc on décide de faire renaître un régiment de légionnaires, la demi-brigade, là, et on annonce l'arrivée de 1300 légionnaires sur le Larzac. Et à ce moment-là, donc on apprend ça de la bouffe de Alain Fauconnier dans une réunion à la JAS qui est très très houleuse, parce qu'on sent très bien que, bon, Alain Fauconnier à l'époque est quand même gêné aux entournures, mais on sent très bien que le terrain a été préparé et que notamment José Bové a certainement été mis dans la confidence avant tout le monde. Et avec les réflexes qu'on avait déjà dans les années 80, on essaie un petit groupe qui... qui va s'appeler Gardem Lolarzac. On va essayer de relancer la mobilisation, et là on se fait éreinter par les figures un peu médiatiques, oui, médiatiques, hein, ceux qui ont l'écoute des médias. Et bon, voilà, quoi. En gros, et là, le Larzac se déchire. Hein. Il y a ceux qui disent, bon, on ne va pas recommencer une lutte de 10 ans. Il y a ceux qui disent, mais de toute façon, il n'y a rien qui change, c'est un changement de locataire. Moi, enfin, avec un certain nombre, on essaie de leur dire que ce n'est pas n'importe quel militaire, ce sont quand même les légionnaires. C'est un régiment très, très particulier dans l'armée française. Mais l'armée a compris son erreur de 71. Elle met un paquet sur la communication, on est envahi d'articles dans le Midi Libre, se fait le porte-parole de l'armée. Enfin, c'est une déferlante médiatique, hein, à l'opposé de ce qui s'était passé en 71. Et voilà, et aujourd'hui, on a nos 1300 légionnaires.
Et tu finis dans ton magnifique ouvrage par ces mots. Cette fois-ci, le pot de fer semble l'emporter sur le pot de terre, mais pour combien de temps? Tu es encore optimiste alors?
Oui, parce que je pense que ce qui a été fait un jour ou l'autre, on ne va pas repartir dans une militarisation de la société. Enfin, je veux dire, c'est ce qui se passe aujourd'hui sur l'Arzac avec ses 1300 légionnaires, c'est aberrant. C'est aberrant. Donc, un jour ou l'autre, se posera la question de la viabilité du camp du Larzac. Mais ce n'est pas dans les 3 années qui vont venir ou dans les 10 ans. Hein. Mais un jour, il y aura un Mitterrand qui nous annoncera pour une élection présidentielle qui ferme le camp du Larzac.
Merci beaucoup, Joseph.
Salut.
Et fraternité.
Le Larzac restera, notre terre servira à la vie. Des moutons, pas des canons, jamais nous ne partirons. De gré, de force, nous garderons Larzac. De gré, de force, nous garderons Larzac. Nous sommes 103 paysans, invités à foutre le camp. De Bréadiget décidé, je veux la terre pour mon armée. Mais nous avons tous refusé. Pas question de se faire acheter. Pour nous, la terre n'a pas de prix. Pour nous, la terre est notre vie. Le Larzac restera, notre terre servira à la vie. Des moutons, pas des canons, jamais nous ne partirons. De gré, de force, nous garderons Larzac. De gré, de force, nous garderons Larzac. Pour le préfet et toute sa clique, nous sommes un objet de mépris. L'enquête d'utilité publique nous a fait marcher sur Paris. Et nous voilà comme aux croisades, 26 tracteurs ont démarré pour le travail et l'agnelage. Certains des nôtres ont dû rester. Le Larzac restera, notre terre servira à la vie. Des moutons, pas des canons, jamais nous ne partirons. De gré, de force, nous garderons Larzac. De gré, de force, nous garderons Larzac. La bergerie de la Blaquière, malgré le veto du préfet, est faite par des volontaires. Tous ceux qui ne veulent plus de guerre refusons de payer l'impôt qui s'en ira à l'armement, et reversons les 3% pour financer ce bâtiment. Le Larzac restera, notre terre servira à la vie. Des moutons, pas de canons, jamais nous ne partirons. De gré, de force, nous garderons Larzac. De gré, de force, nous garderons Larzac.